SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffuserons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur SBS French. Bertrand Tungandamé et Jean-Noël Ducasse pour vous accompagner pendant une heure de programme en français. Dans ce programme, on reviendra sur les résultats historiques des législatives du 30 juin et 7 juillet sous le regard d'un historien. On parlera également de la filière de l'énergie nucléaire en Europe, une approche différente de celle que privilégie l'Australie. Mais tout de suite, l'actualité de ce jeudi 9 juillet. Au sommaire, l'Australie accueille sa toute première déléguée contre l'antisémitisme. Et au lendemain d'élections législatives historiques, la France est plongée dans l'incertitude sans majorité nette à l'Assemblée nationale. Et à la veille d'une réunion de l'OTAN aux USA, Washington rassure ses alliés quant à la capacité du président Biden à effectuer son travail. Le gouvernement a nommé l'avocate et femme d'affaires Gillian Segal comme première déléguée australienne contre l'antisémitisme. On s'attendait à ce que ce poste soit créé en même temps qu'un délégué contre l'islamophobie, ce qui, selon le gouvernement, sera annoncé sous peu. Madame Segal conseillera le gouvernement sur les questions liées à l'antisémitisme et s'engagera auprès de la communauté pour accroître la cohésion sociale. Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré que la lutte contre les sentiments antisémites est particulièrement importante à la suite du conflit en cours au Moyen-Orient.
It is important that we combat discrimination in all of its forms. We have seen since October 7 last year a significant rise in anti-Semitism in Australia. And that is why the government has made the decision to appoint a special envoy on anti-Semitism. And I'm very pleased that Gillian Segal has agreed to take up that role.
La ministre fédérale chargée des affaires aborigènes, Linda Burney, a déclaré que le gouvernement s'était engagé à créer une commission chargée de révéler la vérité. L'échec du référendum à Voice to Parliament l'année dernière a été considéré comme un coup dur porté à la cause des peuples premiers. Mais Mme Burney a déclaré à la ABC que la vérité n'est pas du seul ressort du gouvernement et que toutes les communautés devraient se pencher sur la question de diverses manières. Au cours de la semaine du Night Talk, la semaine en cours, Mme Burney a déclaré qu'elle ne pensait pas que les affaires autochtones sont une question clivante. Elle accuse cependant la coalition d'avoir brouillé les débats en refusant de soutenir la voix aborigène au Parlement. Cependant, Linda Burney affirme que le fait que des millions d'Australiens aient voté pour The Voice to Parliament, l'émergence des jeunes dirigeants autochtones et l'attention portée aux désavantages autochtones ont tous été des aspects positifs après l'échec du référendum. Les habitants d'Alice Springs se sont réveillés après la première nuit d'un couvre-feu visant à réduire la criminalité dans la ville. Le couvre-feu de 3 nuits appliqué par la police locale s'applique à toutes les personnes au centre-ville entre 22h et 6h du matin. Ce couvre-feu a été décrété après une vague de criminalité le week-end dernier, dont une bagarre impliquant 80 personnes. Selon Robin Lamblay, une députée indépendante au Parlement du territoire du Nord, la population locale est soulagée par cette mesure. Elle a déclaré à la chaîne Seven Network qu'une solution à plus long terme devrait être trouvée, impliquant l'adhésion surtout de l'ensemble de la communauté et en particulier des organisations autochtones locales.
Well, the long-term solution is very difficult, and we've all been chipping away at that for many decades. It's about housing. It's about making sure kids go to school. And we have to make everyone who gets government funding accountable for where that goes. There's a lot of questions around whether or not some Aboriginal organisations are actually delivering for their people. It's an ongoing problem. We can never take our eye off the ball, and we need as much help as we can get.
Le gouvernement fédéral s'engage à consacrer 6,3 millions de dollars supplémentaires au renforcement de l'infrastructure bancaire dans la région du Pacifique. Cet argent vise à améliorer la sécurité financière en encourageant les banques australiennes à rester dans la région. Cela intervient au moment où l'Australie s'efforce de plus en plus de consacrer des ressources à la région, surtout pour contrer les tentatives de la Chine d'y gagner une influence. Et début en France des tractations entre formations de gauche qui ont remporté les législatives de 30 juin et 7 juillet afin de proposer le nom d'un potentiel futur Premier ministre. Emmanuel Macron a reconduit Gabriel Attal pour diriger les affaires courantes et il semble très difficile de dégager une majorité gouvernementale dans une assemblée très divisée, d'autant que les compromis, les coalitions et les négociations transpartisanes ne sont pas dans sa culture politique. Pour rappel, le nouveau Front populaire est arrivé en tête, suivi par le groupe Ensemble de la mouvance présidentielle, et contre toute attente, le Rassemblement national est arrivé en troisième position. Charlotte Urien-Tomaka de RFI revient sur de nombreuses surprises, tant du côté des candidats vainqueurs que de celui des perdants de ce scrutin historique.
Grand perdant de cette dissolution, l'ancien ministre de la Santé Olivier Véran, figure du camp Macron et candidat à sa réélection, il n'a recueilli que 40,24% des voix en Isère, où il se présentait. Fin de parcours également pour Sarah El Haïry, la ministre déléguée chargée de l'enfance faisait face dans une triangulaire à un candidat RNLR et un candidat du Nouveau Front Populaire. En Loire-Atlantique, cette figure du MoDem a échoué à moins de 2 points de sa réélection. Le marcheur de la première heure, Stanislas Guérini, qui avait dirigé le parti présidentiel pendant 4 ans, a été battu par Léa Balage-Elmariki, candidate écologiste. Avec 12 points de retard au premier tour, il n'a pas réussi à inverser la tendance dans la troisième circonscription de Paris. À gauche, l'ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale, Valérie Rabault, a été battue dans le Tarn-et-Garonne par la candidate Les Républicains Brigitte Barège, soutenue par le RN. Un coup dur pour cette figure du Palais Bourbon, dont le nom revenait avec insistance pour prendre la présidence de l'hémicycle. Fin de 30 ans de mandat pour Nicolas Dupont-Aignan, le patron de Debout la France n'a pas réussi à passer l'épreuve de la triangulaire dans son fief de l'Essonne. Il cède son fauteuil à son rival insoumis Béranger Cernon qui met un terme au règne du souverainiste réélu à 5 reprises dans ce fief francilien.
Battu en France, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, monte en garde à Strasbourg où il a été élu président du groupe Patriote pour l'Europe, un nouveau groupe nationaliste créé par le premier ministre hongrois Viktor Orban. Comme nous l'explique Pierre Benazé, avec l'arrivée des 30 eurodéputés du RN, ce nouveau groupe va peser lourd au Parlement européen.
Le député qui représentait Jordan Bardella à Bruxelles ce lundi indique que les contacts et les négociations étaient déjà en cours, mais que le Rassemblement national a fait ça, je cite, discrètement pour ne pas interférer avec les législatives en France. Avec 84 députés, Patriotes pour l'Europe devient le 3e parti en nombre. Il y a 12 nationalités dans ce groupe et les contacts se poursuivent avec Giorgia Meloni, voire les Polonais du PiS, le parti droit et justice. Patriotes pour l'Europe voudrait gonfler encore afin d'obtenir non seulement des financements des employés du Parlement, et surtout des présidences de commissions parlementaires. Pour l'instant, le défunt groupe ID était entouré par le cordon sanitaire qui l'empêchait d'accéder à quelque fonction que ce soit. Avec Patriotes pour l'Europe, le Fidesz de Viktor Orban sort de son statut de non-inscrit et avec ses alliés RN, il espère bien rompre ce cordon sanitaire qui serait, je cite, scandaleux au vu des millions d'Européens qui ont voté pour nos partis. Ensemble, ces 12 partis veulent lutter contre l'immigration illégale, réformer la PAC ou le Pacte Vert européen, enfin redonner leur souveraineté aux nations face à une Europe hyper-fédéraliste.
Et l'Australie s'est jointe aux condamnations internationales des dernières attaques meurtrières des missiles russes contre l'Ukraine, notamment contre un hôpital pour enfants dans la capitale Kiev. Au moins 41 civils, dont deux enfants, ont été tués lors de rares attaques aériennes diurnes à travers le pays. La ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré que ces attaques étaient odieuses et que l'Australie continue de soutenir le peuple ukrainien. Elle estime que la guerre menée par la Russie en Ukraine est à la fois illégale et immorale. L'ambassadeur d'Ukraine en Australie, Vassil Miroshnenko, a déclaré que cet incident était l'un des pires attentats jamais enregistrés. Il affirme que l'hôpital pour enfants attaqué est un hôpital très important qui traite des cas très complexes. De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis de se venger de ces attentats.
Все, що зруйнували ці терористи, ми відновимо і безперечно ми відповімо.
Beyond any doubt, we are going to rebuild everything that these terrorists have destroyed. And beyond any doubt, we are going to answer these savages from Russia. Everyone that was injured will get all necessary help. And we pledge to work on bringing Russia to justice for the terror and Putin for his orders to carry out these strikes.
Un porte-parole du président américain Joe Biden a démenti les informations selon lesquelles les alliés des États-Unis cherchaient à obtenir des assurances quant à la capacité de M. Biden à effectuer son travail. Des doutes ont été soulevés quant à la capacité de M. Biden, qui est âgé de 81 ans, à rester président des États-Unis après une mauvaise performance lors d'un débat électoral le mois dernier. Mais avant une réunion des pays de l'OTAN et d'autres alliés des États-Unis à Washington cette semaine, le porte-parole de M. Biden en matière de sécurité nationale, John Kirby, a déclaré que les partenaires américains étaient satisfaits des capacités de M. Biden.
I think the question presupposes the notion that they need to be reassured of American leadership and President Biden's commitment, and I don't believe that's the case. We're not picking up any signs of that from our allies at all, quite the contrary.
L'attaché de presse de M. Biden, Karine Jean-Pierre, a été contrainte de démentir les informations selon lesquelles le président américain serait traité pour la maladie de Parkinson. Ces informations avaient commencé à circuler après qu'il soit apparu dans les registres des visiteurs qu'un médecin spécialisé dans le traitement de cette maladie, le docteur Kevin Canard, s'était rendu à la Maison-Blanche 8 fois au courant de l'année passée. Et pour éviter un procès embarrassant, l'avionneur américain Boeing a conclu un accord de plaider coupable avec le ministre américain de la Justice, le Department of Justice, dans le dossier pénal lié aux deux accidents de 737 MAX en 2018 et 2019, des accidents qui avaient coûté la vie à 346 personnes. Nicolas Feldman des RFI revient sur les dessous de cet accord.
En plaidant coupable, Boeing reconnaît avoir bafoué un précédent accord datant de 2021. Celui-ci imposait à l'avionneur de mettre en conformité plusieurs de ses appareils, dont le 737 MAX 8 impliqué dans les deux crashs en Éthiopie et en Indonésie. Pour ces manquements, le constructeur aéronautique accepte de payer une amende de 243 millions de dollars. Il devra aussi investir près de 2 fois plus dans des programmes de conformité et de sécurité. Boeing s'évite ainsi un procès et donc une condamnation, mais le groupe pourrait néanmoins être fragilisé pour conclure de nouveaux contrats avec le gouvernement et les militaires, des contrats essentiels puisqu'ils représentent le tiers du chiffre d'affaires de l'avionneur. Les familles de victimes se disent aujourd'hui très déçues. L'un des avocats confie « Beaucoup de preuves démontrent que la culture de Boeing est de privilégier les profits à la sécurité. Les parties civiles ont d'ores et déjà demandé à ce que l'accord soit rejeté lors d'une prochaine audience ».
Et pour conclure l'actualité, un coup d'œil météo. Il pleut pratiquement partout à travers le pays, sauf à Darwin. Donc, je me contente de vous donner les températures maximales dans les principales villes. Perth, 22 degrés. Adelaide, 17. Melbourne, 14. Hobart, 14. Canberra, 14 également. Wollongong, 19. Sydney, 18. Newcastle, 19. Brisbane, 23. Cairns, 27. Et Darwin, comme je l'ai souligné un peu plus haut, ensoleillé, un maximum de 33 degrés. Il est 13h14, 19 secondes sur les antennes de la radio SPS. Après une courte pause, nous allons passer au magazine de sport, un magazine signé Jean-Noël Ducasse.
Le journal des sports de ce mardi avec tout d'abord le Tour de France. Eh bien, on revient sur la 9e étape qui a été remportée dimanche par le Français Anthony Turgis. Samedi, Binyam Girmay, l'Érythréen, a gagné à nouveau sa 2e victoire sur le Tour de France. Victor Messistrano pour RFI.
2e dans cette édition, il s'est imposé au sprint avec autorité. Écoutez la folie hier soir dans sa ville natale, Asmara, la capitale de l'Érythrée. Un pays derrière Bini, dont ce n'est, on le rappelle, que la 2e participation sur le Tour. Cette victoire lui permet de conforter son maillot vert de meilleur sprinter.
Et hier, lundi, c'était jour de repos. La 10e étape, c'est pour ce mardi. Les JO de Paris, avec la nouvelle que les lutteurs russes ne viendront pas à Paris, ils ont voté contre, comme nous l'explique Julien Colling pour RFI.
La décision de ne pas se rendre à Paris a été prise à l'unanimité par les lutteurs et leurs entraîneurs, selon la Fédération russe de lutte sportive. Cette dernière a dénoncé dans son communiqué publié samedi le manque de fair-play, je cite, du Comité international olympique, ce qui aboutira, selon elle, à une parodie de compétition fin juillet. En cause pour les Russes, le fait qu'une partie seulement des lutteurs de l'équipe russe, et non pas la totalité, ait été autorisée à se rendre en France, seulement 10 lutteurs sur 16. Et surtout, il ne s'agit pas visiblement des profils les plus prometteurs dans l'optique de remporter des médailles. Par exemple, le double champion olympique Abdulrachid Sadoulayev ou encore le double champion du monde Zaour Ougouyev ont été tous les deux recalés par l'organisation des JO. Le monde unifié de la lutte a perdu sa dernière chance de voir une compétition entre les meilleurs, a ainsi tensé le président de la fédération russe Mikhail Mamiashvili. Il évoque même une dictature, je cite, du CIO qui s'est arrogé lui-même le droit de composer les équipes. A noter que la fédération russe de judo avait pris le 28 juin une décision similaire, choisissant de n'envoyer en France aucun judoka éligible.
Athlétisme, le record du monde du 1500 mètres battu dimanche à Paris. Les précisions de Cédric de Oliveira pour RFI.
L'impression est toujours la même lorsque Faith Kipyegon est sur la piste. Il y a elle et les autres, surtout lorsqu'elle est en forme. La Kenyane avait des jambes de feu à Paris et elle a survolé le 1500 mètres, sa distance fétiche, avec à la clé un nouveau record du monde.
Oui, je me sens bien, j'ai couru merveilleusement bien, j'ai signé un record du monde. Je n'avais pas ça en tête en arrivant ici, que je pouvais battre le record. Je suis si reconnaissante.
3 minutes 49 secondes et 4 centièmes, c'est 7 centièmes de mieux que le précédent record qu'elle avait elle-même établi à Florence la saison passée. À Paris, Kipyegon, qui faisait sa rentrée internationale, s'offre donc une nouvelle course de référence après avoir déjà battu le record du monde du 5000 mètres l'an dernier sur la même piste. Le stade Charletti semble convenir à merveille à la double championne olympique et triple championne du monde.
Mais même moi, je suis surprise. L'année dernière, je battais un record du monde et ça recommence cette année. C'est vrai, c'est étonnant de battre un record à chaque fois que je viens à Paris. J'espère que quand je viendrai pour les Jeux Olympiques, il y aura un autre record de plus.
Pourquoi pas, mais cette fois, il faudra briller au Stade de France, au nord de Paris. Mais la reine Kipyegon se voit bien signer un doublé olympique sur 1500 mètres et 5000 mètres, avec ou sans record, pour gagner un palmarès déjà hallucinant.
On passe à l'Euro de foot. Les Bleus se préparent pour la demi-finale de ce soir contre l'Espagne, comme nous l'explique Victor Messistrano pour RFI.
Deux équipes qualifiées au bout du suspense ce vendredi. Il a donc fallu bien gérer la récupération physique et mentale depuis. Et les Français ont continué à s'entraîner au tir au but. Il faut dire que Kylian Mbappé et les siens éprouvent toutes les peines du monde à marquer dans le jeu. En revanche, contre le Portugal, les cinq tireurs ont inscrit leur pénalty pour l'emporter et briser une série de trois échecs de l'équipe de France en séance de tir au but. Le milieu Youssouf Fofana s'est avancé en deuxième position et il n'a pas tremblé.
Je ne me suis pas imposé plus que ça. J'étais d'accord pour y aller s'il y avait de la place. J'attends vraiment de savoir s'il y a d'autres joueurs qui se sentent plus à même de vouloir aller, parce que moi j'ai toujours envie d'aller tirer un pénalty. Donc c'était avec plaisir que j'ai accepté et je suis parti très sereinement. Oui, peut-être que les échecs nous font avancer sur cet aspect du jeu. Pour avoir ce feeling avec le ballon, oui. Je pense qu'il faut préparer. Donc chacun est libre d'avoir un petit but et de le travailler dans son coin sans pour autant en faire un exercice pour tout le monde.
Et on revient sur les quarts de finale de la semaine dernière avec vendredi l'Espagne qui a joué contre l'Allemagne. À nouveau, Victor Misistrano pour RFI.
Après l'ouverture du score de Dani Olmo, la Mannschaft avait égalisé par Florian Wirtz en fin de match. À la 119e minute, le milieu Mikel Moreno a offert le but du 2-1 et la qualification à son pays. Un moment extraordinaire pour le joueur de la Real Sociedad.
Je n'y croyais pas au début parce que je ne vois pas la balle partir. Je la revois juste au moment où elle rentre et j'entends ce silence incroyable. Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Cela m'a pris quelques secondes pour réaliser que c'était un but et que tout le monde célébrait comme des dingues. Et puis j'ai compris que c'était un but, qu'on était sur le point de gagner. Je suis très très heureux pour tout le monde, parce que cette équipe est une famille, et on le prouve dans ces moments-là.
Et puis, on passe au bilan de ce match France-Portugal. À nouveau, le reportage de Victor Misistrano pour RFI.
Et un Portugal-France comme souvent irrespirable, 0-0. Les deux équipes ont refusé de céder et se sont donc départagées au tir au but. Les Bleus ont mis fin à une série d'échecs dans l'exercice pour remporter cette séance 5-3. Match symbolique de leur tournoi, médiocre en attaque à l'image d'un Kylian Mbappé méconnaissable, solide voire héroïque en défense. Encore une fois, le gardien Mike Maignan s'est montré décisif. Mais l'homme du match, il s'appelle Ousmane Dembélé. C'est d'ailleurs lui qui a montré la voie en inscrivant le premier tir au but français. On l'écoute au micro d'Antoine Grenier.
On est content. Voilà, ça a été un match difficile face à une grande nation qui est le Portugal. Et voilà, on a été solidaires et je pense que voilà, c'est mérité. C'est comme ça depuis beaucoup d'années quand même. L'équipe de France est toujours au rendez-vous, à part l'Euro 2021 où ça a été difficile. Voilà, on est solidaires, on a un groupe de copains. Voilà, qui lâche rien et maintenant arriver jusqu'en demi-finale, ça forge. On se connaît tous depuis tout petit pratiquement, on jouait tous, que ce soit en centre de formation, on se retrouvait en sélection des jeunes et on se connaît, on reste solidaires, on a un groupe de potes.
Une bande de copains qui n'a toujours pas encaissé de but dans le jeu dans 7 euros, mais qui n'a pas non plus marqué par elle-même. Il faudra sans doute le faire mardi à Munich en demi-finale contre l'Espagne. La Roja qui a mis fin à l'aventure du pays organisateur, l'Allemagne, un partout au terme du temps réglementaire. Et c'est le milieu de la Real Sociedad, Mikel Merino, qui a inscrit le but libérateur à l'avant-dernière minute des prolongations.
Les Anglais, eux, ont gagné contre la Suisse au tiers but. Victor Misistrano pour RFI.
Les Three Lions ont pourtant encore manqué de mordant. Ils ont été menés par la Nati qui a ouvert le score par Brel Embolo à un quart d'heure du terme. Mais Bukayo Saka a égalisé dans la foulée d'une frappe magnifique, très excentrée. La suite, on la connaît. Prolongation et donc tir au but. Les Anglais ont réussi toutes leurs tentatives. Tandis que le Suisse Manuel Akanji a vu le gardien Jordan Pickford repousser la sienne. Le capitaine Harry Kane, sorti à quelques minutes de la fin, a pu admirer le sang-froid de ses coéquipiers.
Je suis très fier des gars. Ils ont bien préparé les tirs au but et les ont parfaitement frappés, malgré la fatigue. Ceux qui sont sortis du banc ont montré leur caractère et c'est sûr que pour moi, c'était différent de voir tout ça depuis le banc. Mais je me suis senti calme, tout était sous contrôle et j'étais très confiant en notre gardien, Jordan Pickford. Je savais qu'il aimait met les pénaltys. Alors bien sûr, c'était frustrant pour moi de ne pas faire partie de ce moment, mais nous sommes un groupe, nous avançons tous ensemble, pas à pas. Et c'est ce que nous avons fait aujourd'hui.
Harry Kane au micro de Martin Guez. L'Angleterre jouera sa place en finale de 7 euros mercredi face aux Pays-Bas. Les Oranges, tombeurs de la Turquie, 2-1.
La finale est prévue le 14 juillet prochain. On passe au tennis. Wimbledon en huitième de finale hier. Victoire chez les messieurs de Demi-Nord. L'Australien contre le Français Fils en quatre manches. L'Allemand Zverev éliminé par Fritz l'Américain. Victoire de Novak Djokovic contre Rune en trois manches. Et victoire de Musetti l'Italien contre Pricard le Français. Chez les dames, ça passe pour Rybakina la Kazakh contre la Russe Kalinskaya, qui a dû abandonner dans le deuxième set pour cause de blessure. Victoire de Svitolina, l'Ukrainienne, contre Wang Xinyu, la Chinoise. Victoire de Ostapenko contre Putintseva, la Kazakh. Victoire également de Krejcikova, la Tchèque, contre Collins, l'Américaine. Rugby maintenant, et les tests match d'été se poursuivent avec la victoire de la Nouvelle-Zélande contre l'Angleterre 16-15. L'Australie s'est imposée contre le Pays de Galles 25-16. Et puis l'Afrique du Sud a battu l'Irlande 27-20. C'est une première depuis 2016 en Afrique du Sud, comme nous l'explique Romain Chanson pour RFI.
Welcome to South Africa, my friend.
Du spectacle, de la tension, trois essais inscrits de chaque côté, mais à la fin, c'est l'Afrique du Sud qui gagne, comme une évidence.
On est toujours les meilleurs. Certains en doutaient, on vient de leur répondre.
La dernière fois que ces deux équipes s'étaient rencontrées, c'était à la Coupe du Monde, en phase de poule. L'Irlande avait battu l'Afrique du Sud 13-8. Un affront pour des supporters habitués à la toute-puissance des Springboks.
Ce n'est pas dans notre ADN de perdre. Certains y voient de l'arrogance, mais on est juste trop émotif et on s'investit trop dans notre rugby.
Siya Kolisi a été reconduit comme capitaine des Springboks alors qu'il a été critiqué pour sa méforme par le président de son nouveau club en France, le Racing 92, mais il a reçu le soutien de son public qui a chanté son nom.
Non, il n'est pas gros, il est assez en forme pour être le capitaine.
Voilà du réconfort pour Siya Kolisi dont l'arrivée en France a été compliquée. Le capitaine avait le blues.
C'est ce qui me manquait le plus d'être à la maison, jouer pour les siens, sa famille ou pour toute autre raison.
Siya Kolisi va pouvoir faire le plein d'ondes positives. Lui et les Springboks rejoueront contre l'Irlande samedi prochain, toujours en Afrique du Sud, à Durban.
Et puis il y a eu la victoire de la France contre l'Argentine, 28-13. Victor Misistrano pour RFI.
Et c'est bien connu, les voyages forment la jeunesse. Équipe très remaniée en cette fin de saison. Hier, 8 joueurs français ont honoré leur toute première sélection face aux Pumas. Ils ont permis à la France de remporter sa première victoire en Argentine depuis 2016, 28-13. Une belle soirée pour le capitaine d'un soir, Baptiste Serin.
Très content, forcément. Je pense qu'on nous promettait un match qui allait être très très dur, ce qui a été. Mais voilà, on a fait un match plutôt conquérant. Et voilà, ça fait du bien. Voilà, j'ai une pensée pour tous les nouveaux, tous ceux qui ont connu la fierté qui est la nôtre quand on porte ce maillot. Voilà, je suis très content pour eux, très content pour le groupe parce que après 3 semaines de préparation, ça fait du bien, quoi. C'est bien. Maintenant, il y en a 2 autres à performer parce que l'objectif c'est de performer sur les 3 matchs. Mais c'est de bonne augure, c'est un bon début.
Baptiste Serin chez nos confrères de Canal+. Les 2 autres matchs, c'est mercredi en Uruguay, puis samedi de nouveau en Argentine.
Mot de Formule 1. Le Grand Prix de Grande-Bretagne a été remporté par le Britannique Lewis Hamilton, qui s'impose pour la première fois depuis 2021 après le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Voilà pour le journal des sports de ce mardi.
Elle me dit que tout est écrit, mais je ne ressens plus rien.
C'était Tant pis, une chanson des Rimka avec la participation de Tiff et Sofiane Pamar. Voilà, temps de passer à une courte pause, mais restez à l'écoute parce qu'après la pause, nous allons explorer un sujet qui divise, mais qui passionne aussi, la filière de l'énergie nucléaire. À tout de suite. Alors que la coalition libérale en Australie pense et peine à convaincre l'opinion sur l'énergie nucléaire, l'Union européenne, elle, s'apprête à relancer la filière du nucléaire afin de garantir son approvisionnement électrique. La filière recrute en proposant des salaires attrayants, des conditions de travail de qualité et des possibilités d'ascension sociale aux candidats. Mais les effectifs manquent. Agnès Kakomor au micro de RFI.
On parle de nucléaire. Après la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, l'Union européenne veut garantir son approvisionnement électrique avec la relance de l'atome. Depuis la COP28 à Dubaï en 2023, 25 pays, dont plus d'une douzaine en Europe, ambitionnent de tripler leur capacité de production d'énergie nucléaire d'ici à 2050. Mais il manque un ingrédient essentiel, Agnieszka, ce sont les travailleurs qualifiés.
Oui, c'est un gros problème. On manque de soudeurs, de techniciens, d'ingénieurs ou encore de spécialistes de traitement de déchets radioactifs, alors que ce sont des métiers d'avenir, martèlent les électriciens. Rien qu'en France, 100 000 salariés doivent être embauchés d'ici 2033. Au Royaume-Uni, 123 000 postes sont à pourvoir dans les 10 ans à venir. Une campagne publicitaire de recrutement a eu lieu dans le métro londonien. 6 réacteurs sont actuellement en fonction en Suède. Or, le gouvernement suédois estime qu'il en faudrait au moins 10 de plus pour répondre à la demande d'énergie dans les transports et dans l'industrie. Mais les candidats manquent à l'appel. La pénurie de main-d'œuvre est si grave que certaines entreprises réembauchent des retraités.
Et alors pourquoi les métiers du nucléaire sont-ils en tension?
Les raisons sont différentes selon le pays, Marion. En France, ces difficultés ont souvent été attribuées à une perte de connaissance de la filière nucléaire française après une longue période d'absence de projet dans les années 1990-2000. À cela s'ajoutent les retards de construction ou une réglementation en constante évolution. Le secteur ne fait plus rêver. Résultat, les employés actuels partent à la retraite en emportant avec eux leur expertise. Les écoles aussi ont pris du retard. Le solaire et l'éolien, en plus médiatisés, attirent davantage les jeunes.
Alors, Agnieszka, que fait la filière pour attirer de nouveaux talents?
Des salaires attrayants, des conditions de travail de qualité et des possibilités d'ascension sociale sont proposées aux candidats. On encourage les reconversions pendant les études et en cours de carrière. Les besoins sont tels que certaines formations sont proposées aux demandeurs d'emploi. Enfin, on débauche les experts venant d'autres industries. Toutefois, certaines ONG opposées au nucléaire mettent en garde contre cette prolifération de projets pour construire. La filière recourt massivement aux sous-traitants. Mais il arrive que les conditions de travail du donneur d'ordre et du sous-traitant ne soient pas les mêmes. En France, EDF devrait entretenir les 57 réacteurs existants et en construire 6 nouveaux pour plus de 67 milliards d'euros. Le groupe recrute à tour de bras. 4500 nouveaux postes sont proposés dans le nucléaire, rien qu'en 2024.
C'était Qui ça, une chanson de David Walters. Vous êtes toujours à l'écoute du programme en français sur SPS Audio. Et nous allons passer à une courte pause et puis nous allons avoir une analyse des résultats des législatives anticipées en France sous le regard d'un historien, Romain Fati de la Australian National University. Et cela après cette courte pause. À tout de suite.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Eh bien, le plaisir de retrouver Dr. Romain Fati, qui est Senior Lecturer au School of History, Research School of Social Sciences, au ANU, the Australian National University à Canberra. Il est en France. Bonjour, Monsieur Fati.
Bonjour, merci de me recevoir.
Alors, votre analyse de ce deuxième tour?
Alors, mon analyse, disons qu'elle est peut-être comme celle qu'ont vécu la majorité des Français hier soir, c'est-à-dire que j'ai l'impression que nous sommes passés par quelques émotions. La première, qui était instantanée, c'était ce sens de soulagement que le Rassemblement National n'obtiennent pas de majorité, et encore moins même une minorité, et qu'il soit finalement troisième de cette élection. La seconde émotion que certains Français ont pu exprimer, c'est celle de joie. Je pense aux Français qui ont plutôt voté à gauche. Et enfin, la troisième émotion qui, cette fois-ci, est réellement partagée, c'est celle du réveil ce matin en France, où on se dit, bon, et maintenant, quoi? Parce qu'il va falloir avoir un gouvernement de coalition, et ce n'est pas quelque chose que l'on sait faire.
Et donc, d'après ce que je comprends, l'électorat français a eu peur de l'extrême droite au pouvoir, et l'extrême droite réalise un score impressionnant, mais c'est une lourde défaite quand même.
Oui, et c'est là où vraiment se trouve le paradoxe. C'est-à-dire que si l'on classe les partis par siège, effectivement, le Nouveau Front Populaire arrive en tête avec 182 circonscriptions, 168 pour le mouvement Ensemble, la majorité présidentielle, qui composait de trois partis, Renaissance, le Modem et Horizon, et 143 pour le Rassemblement National. Donc, on pourrait se dire, effectivement, le RN arrive troisième. Cependant, il passe de 89 députés à 143. C'est une victoire en soi, c'est-à-dire que sa possibilité de blocage au sein de l'Assemblée et au sein des commissions va être assez importante, d'une part. D'autre part, si l'on considère le nombre de voix qui ont été reçues, puisque de nombreux Français n'ont pas voté pour leur candidat de cœur, mais pour voter contre le Rassemblement National, il se trouve que dans les plupart des circonscriptions en France, si on les additionne, le parti qui a reçu le plus de voix hier est le Front National. Ça, il faut le garder en tête. Effectivement, le jeu des triangulaires et aussi le jeu des élections et des désistements fait que la majorité des candidats élus, la grande majorité, n'est pas Front National. Mais de manière générale, les Français, dans la plupart des circonscriptions, ont eu le choix de voter entre Front National et quelqu'un d'autre. Ils ont choisi ce quelqu'un d'autre. Mais si on accumule toutes ces voix Front National, c'est aujourd'hui le premier parti de France. Donc, il ne faut pas se leurrer sur ce sens de soulagement, parce que le Front National, même s'il a perdu ses législatives, du fait de l'organisation du système électoral français, est quand même le premier parti de France.
Et donc, comme a dit Marine Le Pen, la victoire est différée.
Alors oui, alors c'est compliqué pour moi d'être d'accord sur une analyse qui émanerait de dirigeants du Front National, mais en réalité, le gouvernement qui va être nommé dans les jours ou dans les semaines à venir a une responsabilité absolument historique. Parce que si ce gouvernement se rate, et d'ailleurs il pourrait y avoir plusieurs gouvernements en un an, voire en deux ans, parce qu'il y a deux échéances. La première, c'est 2027, si tout se passe bien. Mais constitutionnellement, on pourrait revivre une dissolution sous 12 mois, ce que prévoit la Constitution. Et entre maintenant et ces 12 mois, il se peut qu'un gouvernement tienne ou que plusieurs gouvernements se succèdent, un peu sous le mode de la 4e République, où les alliances se font et se défont entre les partis, et les motions de censure s'accumulent, et les gouvernements tombent. Si la France se trouve dans cette situation d'instabilité politique chronique, vous pouvez être absolument certain que c'est la porte ouverte au Front National, non seulement à l'Assemblée, mais également à la présidence de la République. Donc effectivement, Marine Le Pen a cet espoir que le parti est en train de reculer pour mieux sauter. J'espère, et ça c'est mon point de vue, et il faut être honnête, je n'appartiens à aucun parti politique, dès que je fais une interview qui traite de politique, je le dis et je l'affirme. Mais il faut être honnête également avec les auditeurs, ce n'est pas mon parti de cœur, le Front National évidemment. Et donc, ce que je veux dire là, c'est que effectivement, Marine Le Pen a peut-être raison de pressentir que les portes du pouvoir lui sont peut-être ouvertes au cas où le nouveau gouvernement qui va être nommé n'arrive pas à garder le pouvoir ou n'arrive pas à faire évoluer la situation en France d'une façon qui ferait baisser les voix du RN en proposant une alternative au Rassemblement National.
Et M. Fati, peut-on parler du choix du prochain Premier ministre? J'imagine que ce sera compliqué. Peut-on parler d'un scénario d'une personnalité totalement inconnue comme Premier ministre ou peut-être comme Première ministre Marine Tondelier?
Alors, Marine Tondelier, cela m'étonnerait. Mais tout est possible, Monsieur Ducasse. Vous-même pourriez être appelé par Monsieur le Président de la République pour prendre la fonction de Premier ministre. En France, chaque citoyen qui a l'âge d'être Premier ministre et n'a pas besoin d'appartenir à un parti politique, n'a même pas besoin d'être élu pour être Premier ministre. On pense à Dominique de Villepin, par exemple, mais il y en a eu d'autres sous l'histoire de la Ve République. Bien sûr, ça c'est un scénario improbable. Ce que je veux dire par cet exemple, par l'absurde, c'est que aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous avez Monsieur Gabriel Attal qui est en route vers l'Élysée pour remettre sa démission formelle au président de la République. Monsieur le président de la République peut l'accepter et nommer un autre Premier ministre. Monsieur le président de la République peut demander à Monsieur le Premier ministre Gabriel Attal de rester en fonction pour assurer un gouvernement de transition, ne serait-ce que parce qu'il y a le 14 juillet la semaine prochaine et puis il y a les Jeux Olympiques, ou Monsieur Emmanuel Macron peut décider de lui demander de rester, mais simplement quelques jours, parce qu'il a déjà une idée de qui il va nommer. Simplement, en ce moment précis, je ne peux pas vous dire qui sera nommé. Probablement quelqu'un qui viendrait plutôt d'une gauche modérée, de sorte à faire consensus entre la gauche dure de la France insoumise et entre les partis de ensemble du centre. Cette personne, si ce n'est pas un leader politique que l'on connaît, homme ou une femme, qui pourrait être peut-être, comment dirais-je, ne pas faire consensus au sein des partis, alors effectivement, il se pourrait que le ou la nouvelle première ministre soit, comme on dit, inconnue au bataillon, justement pour créer cette surprise qui ferait consensus. Donc, au moment où je vous parle, c'est très dur de vous dire qui sera Premier ministre. C'est même probablement impossible parce qu'il y a des dizaines de possibilités différentes. Simplement, il convient de penser, dans la mesure où on analyse les résultats de la nouvelle chambre de l'Assemblée nationale, qu'effectivement, cette personnalité serait plutôt marquée à gauche, d'une gauche modérée, ou si le Premier ministre ou la Première ministre n'est pas de gauche elle-même ou lui-même, le gouvernement aura probablement plus de Marocains, plus de portfolios à gauche qu'au centre, étant donné la distribution des partis politiques, enfin des coalitions, au sein de la nouvelle Assemblée qui vient d'être élue.
Alors, quand on parle de personnes qui sont invitées pour faire partie du gouvernement et qui viennent de la société civile, pourquoi est-ce que c'est une chose acceptable en France, mais pas comme chez nous, ici en Australie?
Eh bien, parce que cela répond à un système électoral différent et une pratique de la politique différente. En Australie, pour être ministre, il faut impérativement que vous soyez élu dans un électorat, parce que c'est un système de Westminster classique qui est organisé autour de deux grands partis majoritaires qui généralement se partagent le pouvoir. Donc il est important pour un gouvernement de pouvoir contrôler ses voix et donc que les ministres gardent leur siège. En France, quand vous êtes ministre, vous perdez automatiquement votre siège de député, puisque vous ne pouvez pas faire partie de l'exécutif, le gouvernement, et être le législatif en même temps, puisque dans notre pays, le législatif répond à l'exécutif, ce qu'on a vu, hein, l'exécutif a dissous l'Assemblée nationale, mais aussi l'exécutif répond devant la Chambre, répond devant le législateur. Et donc, le gouvernement, hein, vous avez le question time aussi en France, à l'Assemblée nationale le mercredi, où effectivement, les députés peuvent griller un petit peu les ministres. Donc c'est un système politique différent qui répond à une tradition politique différente où chaque citoyen peut servir la nation, qu'il soit ou qu'elle soit élu ou non, si ce citoyen ou cette citoyenne est appelé aux fonctions par le président de la République. En France, le président de la République nomme le Premier ministre, donc il fait ce choix. En revanche, théoriquement, le président nomme les ministres sur la recommandation de ce nouveau Premier ministre. Et vous n'avez pas nécessairement besoin d'être élu pour être ministre, puisque toutes les forces vives de la nation peuvent être appelées à servir la France.
Docteur Fati, comment expliquez-vous la force du Rassemblement national. Est-ce que le Rassemblement national a présenté un programme crédible tout au long de la campagne?
Alors, programme crédible, non. Mais pour expliquer la force du Rassemblement national d'aujourd'hui, il y a des facteurs internes et des facteurs externes. Les facteurs internes, il faut reconnaître le succès de Marine Le Pen à transformer un parti d'extrême droite raciste avec des membres qui étaient condamnés pour avoir nié l'Holocauste, etc. Je ne vais pas vous faire l'histoire. Elle a transformé ce vieux parti d'extrême droite en un parti populiste. Et ce faisant, a augmenté sa base électorale avec des personnes âgées, avec des jeunes, avec des travailleurs qui sont passés de la gauche à la droite. Donc, il y a des succès internes au Front National qui sont assez évidents en termes de stratégie électorale. Mais il y a aussi des succès externes qui sont liés au ras-le-bol général des Français. Je ne pense pas, pour être en France en ce moment, je ne pense pas que, si vous prenez le cas de la Bretagne, qui est traditionnellement une terre de gauche, et qui a mis le Front National en tête au premier tour des législatives, ce n'est pas une terre raciste et idéologiquement convaincue par les idéaux du Rassemblement National. En réalité, c'est plutôt une terre qui a combattu le Front National et le Rassemblement National pendant des décennies. En revanche, ce qu'il se passe aujourd'hui, c'est que si vous êtes en Bretagne rurale ou ailleurs dans le pays, dans la ruralité, il vous faut 3 semaines, voire 1 mois, pour avoir accès à un docteur généraliste. Et je ne vous parle même pas des spécialistes. Il y a des règles difficilement compréhensibles qui sont liées, des règles écologistes sur l'utilisation des champs, par exemple, près des maisons. De nombreuses personnes ne comprennent plus les règles, n'ont plus accès à de la médecine courante et se sentent complètement... abandonné par la politique qui est menée à Paris. Et ça, c'est un autre point. Il semblerait que de plus en plus, le modèle dans lequel la France fonctionne ne soit plus adapté au XXIe siècle. L'État ne répond pas assez vite. On a l'impression que le service public sert d'abord l'État plutôt qu'il ne sert la population. Et là, il faudrait vraiment que le nouveau gouvernement se penche sur d'autres pays, par exemple l'Australie, où généralement les services publics sont très réactifs. Il y a un ras-le-bol général qui explique, en partie pourquoi le Front National a accumulé autant de voix lors de ces élections législatives avancées de 2024.
Monsieur Fati, il y a eu le comeback de François Hollande. Quel va être son poids politique dans les mois à venir?
Il risque, ce poids politique, d'être important. Il ne faut pas sous-estimer M. Hollande, qui a été effectivement défait, qui n'a pas pu se représenter à la pré-présidentielle de 2017. En revanche, c'est un apparatchik. C'est quelqu'un qui vient du Parti Socialiste, qui a eu plusieurs ministères et qui a été président de la République. Et qui a été président de la République avec une majorité parlementaire, puis sans une majorité parlementaire claire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que M. Hollande comprend, pour l'avoir vécu, ce qui se passe pour M. Macron. Et M. Hollande a une fine connaissance de l'Assemblée nationale et du travail de commission. Si bien que, quand bien même il ne serait pas au devant de la scène médiatique, il sera appelé à jouer un rôle important de médiateur entre les différents partis de la future coalition qui se formera pour établir le nouveau gouvernement de la France, dans la mesure où aucun parti n'a la possibilité de former un gouvernement avec ses propres députés, puisqu'il n'y a pas de majorité claire à l'Assemblée nationale.
Parlons de l'avenir du président Macron. Va-t-il pouvoir ou vouloir continuer jusqu'en 2027?
Alors, il y a plusieurs réponses à cette question. La première, c'est que je me tourne vers la constitution de notre pays et les dernières élections présidentielles qui ont lieu en 2022. Théoriquement, M. Macron peut rester président et le restera probablement jusqu'aux prochaines présidentielles en 2027. Il n'y a absolument rien dans notre pays qui puisse faire que M. Macron soit révoqué, sauf vraiment s'il avait une attaque et qu'il perdait usage de ses fonctions cognitives. Donc je ne lui souhaite pas. Monsieur Macron pourrait décider de son propre chef de quitter la présidence de la République. Je ne pense pas que cela corresponde à son tempérament personnel ou politique. Donc, Monsieur Macron restera probablement président jusqu'en 2027, et il le restera d'autant plus que la situation politique est plus clémente qu'en cas de victoire du Rassemblement national. Si le Rassemblement national avait gagné, effectivement, dans la mesure où le président a un certain nombre de droits de veto qu'il aurait pu appliquer, il y aurait pu avoir conflit entre le gouvernement et le président. Là, on se retrouve dans une situation où, effectivement, M. Macron ne sera probablement pas en accord avec le nouveau Front populaire, surtout, mais sera en mesure de travailler avec les représentants du nouveau Front populaire, si cette coalition perdure, hein, ça reste à voir. Donc, pour répondre clairement à votre question, il y a plus de probabilité que M. Macron reste président jusqu'en 2027 qu'il ne quitte ses fonctions. Et enfin, il y a plus, dans cette nouvelle chambre élue, de possibilités pour M. Macron de travailler avec la nouvelle chambre que cela n'aurait été le cas avec le Front national, pardon, le Rassemblement national.
Merci à vous, Dr. Romain Fati, et à très bientôt en Australie.
Je vous en prie, merci.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.
Et c'était Sémaphore, une chanson de Hervé. Place à présent au rappel des principaux titres de l'actualité de ce jeudi 9 juillet. L'Australie accueille sa toute première déléguée à l'antisémitisme. Et au lendemain d'élections législatives historiques, la France est plongée dans l'incertitude, sans majorité nette à l'Assemblée nationale. Et à la veille d'une réunion de l'OTAN aux USA, Washington rassure ses alliés quant à la capacité du président Joe Biden à effectuer son travail. Voilà, notre émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Prochaine édition, c'est jeudi à la même heure. Bon après-midi et à très bientôt.
Vous voulez entendre d'autres rubriques comme celle-ci ? Écoutez-les sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe où vous obtenez vos podcasts.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.